Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci de votre présence à ce café littéraire. Vous savez qu'aux Imaginales, il y a quelques petites habitudes, et en particulier les auteurs en retard, en particulier les cafés littéraires qu'on retrouve. On retrouve le coup de cœur du festival chaque samedi matin à 11h. On retrouve le vendredi le café littéraire consacré au premier roman Nouveau Talent. Et on retrouve à 15h le samedi, ça ce sont des rendez-vous immuables que vous retrouverez tous les ans aux Imaginales, la présentation de l'anthologie Créature, qui d'ailleurs normalement devrait être sur la table et qui n'y est pas. Mais je pense que dans les minutes qui viennent, ces créatures vont nous arriver. Oh ben voilà, en plus c'est les auteurs qui l'amènent, tout va bien. Merci beaucoup Hélène, qui a eu quelques malheurs avec la navette, qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et on s'en excuse. Créature, c'est tout simplement le thème du festival. Vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas les plus anciens, les plus habitués aux Imaginales, que nous faisons une anthologie depuis 2009. Créé le festival en 2002, en 2009, j'ai une petite idée en disant ce serait peut-être bien de faire chaque année une anthologie qui parle un petit peu de nos genres par l'intermédiaire de la nouvelle, qui présente au public un petit peu un panorama des talents de la fantasy. Au départ, il s'agissait d'une anthologie de fantasy, une anthologie thématique. Le premier que j'ai eu le plaisir évidemment de faire, c'était Roi et Capitaine, puis Magicienne et Sorcier, et plein d'autres, Bourreau, Victime et Bourreau aussi, c'était un peu plus original. Il y avait des fées, enfin bref, toutes ces créatures, c'est le cas de le dire, déjà on anticipait, qui font un petit peu le miel de la fantaisie. Et puis, arrivé en 2017, nous avons décidé de faire un thème au festival. Et à partir de ce moment-là, il y avait une logique. C'est que l'anthologie, c'était évident qu'elle devait être l'anthologie sur le thème du festival. Et donc, Destination l'an dernier, et cette année Créature. Et évidemment, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que l'anthologie n'est plus une anthologie de fantasy à 100%, mais une anthologie des genres de l'imaginaire autour de la thématique. Il y a une dominante fantasy, mais il y a aussi des textes parfois de fantastique et parfois de science-fiction. Et donc, vous allez découvrir Créature. Pourquoi Créature? Pourquoi ce thème? Je crois que maintenant, le samedi, tout le monde est au courant. Parce que c'est le bicentenaire de la publication de Frankenstein, le grand roman de science-fiction, qui crée en quelque sorte le genre. On dit souvent roman fantastique, c'est évidemment une erreur, c'est un roman de science-fiction. C'est une créature qui est fabriquée non pas par la surnature, par le diable, etc., ce qui est des thèmes de fantastique, mais c'est une créature et qui est créée avec des morceaux de corps, par un scientifique, avec l'électricité. Certainement aujourd'hui, deux siècles après, c'est farfelu, mais à l'époque c'était le début de l'électricité et on pouvait imaginer sans aucun doute l'utilisation qu'on pouvait faire de cette chose absolument extraordinaire qu'on appelait la fée électrique à l'époque. Les gens étaient fascinés par ce début, ils ne maîtrisaient pas, et c'est pour ça que Frankenstein imagine qu'on recrée du vivant à partir de morceaux de cadavres et de l'impulsion électrique. Ceci dit, parfois c'est comme ça qu'on réveille par un choc électrique, donc c'est pas si stupide que ça. C'est pas si anti-scientifique que ça, même si évidemment c'est extrapolé. Voilà, donc on voulait célébrer ça, ce bicentenaire de ce grand roman fondateur, de ce grand texte de Mary Shelley. On voulait à partir de là, on avait pensé à Monstre d'abord. D'ailleurs, je sais qu'un festival régional en Anjou a utilisé ce thème. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu restrictif. Ou alors, on va dire, je l'ai choisi moi-même. Non, Créature, c'est plus vaste, c'est plus large, c'est plus sympa. Ça parle aussi des extraterrestres. Ça parle aussi des créatures fantastiques de l'au-delà et de l'autre monde. Et ça part aussi des créatures qui arrivent en retard. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la diversité. C'est l'ensemble de la diversité de ce festival. Bien évidemment, Jean-Laurent Del Secoro, comme nous commençons déjà cette année à une rémunération des auteurs, l'an prochain elle sera totale, c'est plus une fois sur deux mais totale. Donc là le festival fait un grand pas de soutien aux auteurs, et là évidemment ce professionnalisme accru, l'an prochain vous êtes en retard un quart d'heure moins comme à l'usine au 19e. Bien. Ces créatures qui nous entourent, quatre créatures, le coup de cœur du festival, Jean-Laurent Del Socorro, une créature venue d'horizons lointains et parfois froids, pas humainement au niveau du climat, c'est Jean-Louis Trudel, un des auteurs de la délégation, de la superbe délégation canadienne, canadien-français, pas québécois, Voilà, il y tient beaucoup. Le Canada français, c'est bien sûr le Québec en dominante, mais c'est aussi des Français dans d'autres régions du Canada. Et on ne le sait pas toujours quand on n'a pas eu l'occasion, comme je l'ai eu, d'aller visiter dès les années 80 ce magnifique pays où on trouve des écrivains de grand talent. Mais on va vous en convaincre, ceux qui ne le savaient pas encore. On a aussi autour de nous Anselm Hochkorn. Vous allez voir pourquoi je fais un petit détour. Anselm Hochkorn, qui est tout simplement le prix Imaginal de l'an dernier. Donc, on estime qu'à partir du moment où un jury a quand même estimé que notre auteur est tout à fait brillant, on allait l'inviter à participer à l'anthologie. Et Hélène Larvette, qui, elle, a eu le prix Imaginal pour son premier ouvrage, art book, comme on dit, enfin, ouvrage illustré, avec plein de textes aussi, les deux. Et puis, elle a eu ce prix Imaginal en 2016, absolument. Et on était tellement emballés qu'on lui a confié l'affiche du festival. Voilà. Et du coup, les choses ont été très vite, parce que quand le talent s'impose comme ça, comme on a vu qu'elle avait fait des textes dans Starbook, on s'est dit, mais si elle écrit des textes, elle peut faire une nouvelle. Et on l'a donc, je lui ai donc demandé, avec Stéphane Vézère, qui m'a dit, si on demandait à Hélène, je suis tout à fait d'accord. Donc, on a demandé une nouvelle, comme quoi on peut être à la fois dans l'illustration, le dessin, l'écrit. Un artiste peut parfois être uniquement sur une façon de faire et parfois sur plusieurs. Voilà. J'ai choisi ces quatre-là. J'aurais pu en choisir d'autres parce que les talents sont multiples. Vous verrez, vous les découvrirez. Il y a une majorité de textes d'auteurs de fantasy. Il y a plusieurs textes de science-fiction. Et puis, il y a quelques textes qui sont plutôt du domaine du fantastique. Alors, tout seigneur, tout honneur, le coup de cœur du festival, Jean-Laurent Del Socorro, Devant être colère, Boudica, deux romans qui vous imposent en très peu de temps, qui décrochent un premier prix, puis un deuxième cette année avec le prix Imaginal des bibliothécaires. Voilà, carton plein. Et vous êtes un auteur de fantasy historique, et là, vous me faites une nouvelle de science-fiction qui inaugure l'anthologie. Pourquoi avez-vous décidé de faire une nouvelle de science-fiction et pas de fantasy pour cette anthologie créature ?
Bonjour et encore une fois désolé pour ce retard. Il y a une deuxième fil logique dans mes écrits. Il y a effectivement l'histoire, mais il y a aussi quelque chose d'important. Je cherche régulièrement de façon modeste, à réhabiliter parfois des personnalités historiques féminines qui sont plus ou moins connues. Et j'avais envie de rendre hommage à Ada Lovelace, qui a écrit le premier code informatique de l'histoire. Donc là, déjà, on est à nouveau sur une période historique. Mais là, j'ai voulu aussi m'essayer pour la première fois au steampunk et à l'Uchronie. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, sur une petite forme, d'essayer quelque chose de différent. Donc à travers, en rendant hommage à la fois à ce personnage, je voulais aussi essayer de prendre des risques en tant qu'auteur. C'est compliqué, c'est le travail d'une vie. Je pense qu'on a toujours à apprendre dans ce métier-là. Et j'avais envie d'aborder mon écriture sous un angle différent. Cette fois, à chaque fois qu'on me pose la question, vous n'êtes jamais tenté de changer la fin de vos livres historiques ? Non, c'est des romans de fantasy historique, il y a historique dedans. Là, on est vraiment dans l'Uchronie, il y a un SI qui apparaît. Et si Ada Lovelace avait écrit le premier code informatique de l'histoire et avait donné naissance à la première intelligence artificielle. À partir de là, voilà, la nouvelle démarre.
Jean-Louis Trudel, deuxième nouvelle de science-fiction, mais là on va aller beaucoup plus loin, on va aller dans l'espace et c'est pas la première fois que vous le faites. Pourquoi cet amour particulier que vous avez pour la science-fiction, Jean-Louis Trudel ?
Je suis tombé dans le bain quand j'étais vraiment tout petit. Je me souviens que ma mère me lisait les BD de Danny Futuro dans le journal Tintin, parce que justement j'étais si jeune que je ne pouvais pas lire moi-même ce qui était dans les bulles. Je suis resté fidèle, c'est la constante depuis maintenant plus de 40 ans. Les lectures, l'écriture, plus d'une centaine de nouvelles, et à chaque fois, je sais pas, moi je considère que quelque part ça garde jeune de se forcer à penser à l'avenir. Continuer à observer les nouvelles technologies, les nouvelles découvertes qui se font, et d'essayer d'imaginer quelques-unes des possibilités qui peuvent en sortir. Que ce soit... C'est un peu justement Après, je peux pas trop en dire sur l'inspiration de cette nouvelle parce que ça révélerait un peu la fin. Donc, mais c'est néanmoins un entrefilet, disons, scientifico-médical qui m'a inspiré un peu l'idée de la nouvelle. Ça se passe dans l'espace, ça se passe autour d'une planète géante, sur une petite lune glacée que l'on veut terraformer pour en faire une station balnéaire spatiale, parce que cette géante, comme dans certains exosystèmes actuels, est très relativement proche de son soleil, assez pour qu'on puisse envisager de faire basculer cette lune glacée en lune suffisamment un peu plus chaude, et justement avec on peut imaginer, même si ça c'est vraiment tout à fait secondaire dans la nouvelle, mais pas entièrement, ça fait partie de mon imaginaire d'essayer de penser à la fois différentes possibilités et de les faire entrer dans la même histoire.
Hélène Larbette, vous êtes passée comme ça, même si vous avez déjà commencé. Comment vous êtes passée de l'illustration à l'écriture de fiction? Comment vous êtes passée du dessin à la nouvelle, au texte en tout cas?
Alors en fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. J'ai commencé par l'écriture. Et pour l'étrange cabaret qui avait été primé ici, c'était le cas. J'avais commencé par écrire et puis, trouvant que, voilà, que j'étais capable d'essayer au moins d'illustrer un petit peu les textes, j'avais proposé un ensemble donc écrit et illustré à mon éditeur Mnemos, extrêmement stressé à l'idée qu'effectivement il rejette le projet à cause des illustrations. Mais je m'étais dit c'est pas grave, il y aura des illustrations, au moins ça donnera peut-être une idée, même si voilà ça pouvait, et finalement non voilà, ils ont pris les textes et les illustrations, mais l'illustration est venue après l'écriture, vu que moi j'ai une formation littéraire, je suis historienne médiéviste à la base, donc j'avais plutôt cette culture littéraire, et l'illustration est arrivée par hasard, je dirais. Je suis devenue illustratrice par accident, et quand le projet chez Mnemos a été accepté, et que les textes et les illustrations ont été acceptés, voilà, je m'y suis plongée, on va dire, encore plus, et puis les deux sont... Ensuite, on avançait de manière assez complémentaire, donc travaillant parfois sur du texte, parfois sur l'illustration. J'avais écrit une nouvelle aussi dans l'anthologie Dimension Brocéliande, où là, j'avais fait 3 illustrations et un texte, voilà.
Et puis d'emblée, prix imaginal de l'illustration en 2015, l'affiche était en 2016, évidemment, il fallait déjà qu'on ait lu son livre pour lui faire une telle confiance, qu'il y ait de lui confier une affiche, et on a été très heureux parce qu'on a eu beaucoup de compliments. En général, c'est le cas pour les affiches. Pied d'ombre. Encore ici, dit-il. Encore ici, répondit le fantôme. Je te vois dans le feu, dit l'homme. Je t'entends dans la musique, dans le vent, dans le silence de mort de la nuit. Charles Dickens, l'homme hanté. La vieille Nell traînait sa jambe empesée à travers le tapis de feuilles mortes de Priory Garden. Cette raideur la suivait depuis tant d'années qu'elle ne prêtait plus aucune attention à sa démarche malaisée, parfois claudiquante. Le regard curieux du monde extérieur lui rappelait parfois qu'elle ne semblait être qu'un oiseau de basse-cour engoncé dans un costume de carnaval. Derrière une compassion faussement altruiste ressortait une cocasserie dont on l'avait affublée et si souvent pointée du doigt. La vieille femme n'en prenait jamais ombrage. Dès ses plus jeunes années, son grand corps empoté, bien trop grand et bien trop gauche pour une femme quelle qu'elle soit, avait fait l'objet de mots d'esprit. Jantenelle est si maladroite, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Jantenelle est si malhabile, comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Jantenelle est si mal esvisée, une vraie tête de linotte. Bien avant que sa jambe ne glisse sur les rives du Styx, Nell savait qu'aux yeux de son entourage, elle avançait dans la vie avec autant de grâce et d'adresse, comme moi, qu'une volaille à l'approche de Noël. Toutefois, en son fort intérieur, elle souriait de cette logique collective et largement admise qui lui paraissait cependant d'une parfaite absurdité. Qu'aurait donc fait un pachyderme d'un service de Chine? Et pourquoi dresser une table garnie de couverts au milieu d'un poulailler? Toute son enfance, la boitillante Nell avait rêvé que des ailes lui poussent au talon. Mais si Hermès n'avait daigné déposer ses souliers au pied de son lit, ou Morphée voulut répondre à ses souhaits d'Alcyon, il semblait qu'en revanche, quelques plumes avaient eu le bon goût de venir s'échouer jusque dans son esprit. Une faveur fort appréciable lorsque le temps venait de s'envoler, loin des considérations triviales, érigées en vérité dans un monde qui n'avait rien d'olympien. Ainsi, au fil des ans, Cahin-Cahin, Jean-Tenelle roulait sa bosse à 36 carats sous les ricanements qu'entraînent les apparences trompeuses des fées métamorphosées au regard d'humains. Vous démarrez par un personnage, on perçoit une difficulté, un handicap, etc. Et la question, évidemment, vient tout de suite. Est-ce qu'on peut s'exposer autant, Hélène Larbette, dans un texte, c'est-à-dire quelque part démarrer, bien sûr en transposant, vous n'êtes pas une vieille femme, mais en transposant son propre souci, puisqu'il vous est arrivé, ce n'est pas un secret, puisque vous en parlez dans la fiction et ouvertement sur les réseaux sociaux, vous arrivez à un accident stupide, bête, comme tous les accidents, et vous traînez encore cette difficulté aujourd'hui, y compris quand le chauffeur n'a pas été prévenu et que vous attendez longtemps, et qu'on est obligé de vous trouver ensuite, non pas un chauffeur, mais un antalgique, avec nos excuses encore, Hélène. Bref, comment passe-t-on de sa propre expérience, sa propre douleur, et le transposer en fiction?
Je pense que, voilà, donc effectivement, l'accident que j'ai subi et voilà, le traumatisme que j'ai subi était tellement important que ça a été un bouleversement personnel dans ma vie qui a changé beaucoup de choses, qui a changé ma façon de voir certaines choses, de voir aussi ça, voilà, la création, et que ça a forcément marqué ma création et au moment où il a fallu écrire cette nouvelle, j'étais tellement encore, et je le suis encore tellement, dans, je dirais, la reconstruction et l'acceptation à la fois de l'accident et du handicap, que je ne pouvais pas faire autrement qu'écrire là-dessus. À mon avis, c'était l'écriture a aussi été assez cathartique, du coup, et c'était à la fois évident, à la fois nécessaire, et puis bon, c'est vrai, je pense que nos expériences aussi, je pense que ça c'est vrai pour chacun, nos expériences influencent sur notre créativité, sur ce dont on veut parler, ce que l'on veut représenter. Et là, c'était, je pense, incontournable.
En commençant par la fin, FAIM, Sal Moshkorn, on va rentrer dans votre texte par les premières lignes. Où sœur Ventru et sœur Sourire cherchent un chien. Obéir aux lubies d'une môme, ce n'est point lui rendre service. Sœur Ventru tassait la terre sous ses sabots. Au bout de son bâton, une lanterne d'Odeline telle une luciole dans la nuit. Son ombre obèse flottait derrière elle, la grosse nonne rouspétée contre tout, le sentier mal entretenu, la forêt menaçante et surtout cette marche interminable sous l'œil exorbité de la lune. La bonté a ses limites, votre nouvelle protégée nous mène par le bout du nez. Une seconde nonne, haute de taille et tout en eau, suivait la râleuse sans broncher. Sœur Sourire arborait son perpétuel RBA. Le plus tranquillement du monde, elle caressait l'encolure de l'âne balançant à ses côtés. Votre bon cœur vous perdra. Et une nuit de marche pour atteindre le visage de cette gosse capricieuse. Et après, espérez-vous vraiment retrouver son chien? Depuis le temps, le bâtard s'est enfui. Ou pire, les loups l'auront croqué. Le chien porte peu, répondit Sœur Sourire de sa voix flûtée. Dans ce cas, pourquoi diantre nous abîmer la santé? Sœur Sourire gratouilla l'oreine de l'âne. Nous prouvons à cet enfant qu'elle peut compter sur nous. Les circonstances l'ont privé de sa famille. J'entends lui faire comprendre que la Providence lui en a fourni une nouvelle. Ça a l'air gentil. Ça démarre bien, on est en confiance, vous ne connaissez pas Anselme Moshkorn. Pourquoi commencer comme ça, d'abord par ces petites lignes-là, où Sœur Ventru et Sœur Sourire cherchent un chien? Ça nous rappelle un peu les romans du 19e, c'est volontaire bien sûr.
Je voulais apporter beaucoup de tendresse, enfin, j'aime beaucoup les monstres, j'aime beaucoup les créatures. Donc quand Stéphanie m'a approché avec le thème de l'anthologie, j'avoue qu'en quelques mots, j'étais déjà complètement conquis. J'aime beaucoup en fait ce qui sort de l'ordinaire, l'étrange, le bizarre, tout ce qui va être un petit peu pointé du doigt fort injustement. Et donc je voulais d'entrée de jeu qu'on parte sur une note tendre. Je refuse de croire qu'elle est démentie par la suite. Elle est éventuellement légèrement malmenée, mais c'est quand même pas si dur que ça, j'espère. Et je voulais surtout avoir d'emblée donc un trio de caractères. En fait, j'aime bien les scènes d'exposition où très très vite on comprend les motivations des personnages. Et donc, sans trop vous spoiler l'intrigue, le but c'est comme de montrer que le monstre crée dans le regard de l'autre. Il n'y a pas de monstre s'il n'y a pas d'autres personnes, s'il n'y a pas d'altérité, s'il n'y a pas de confrontation. Et donc du coup, on part avec ce trio de personnages qui ont des vues sur la créature diamétralement opposées, qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Et à vrai dire, on sait très peu de choses de la créature, et là c'est après un secret de Polichinelle. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que dans le regard qu'on porte sur les autres, on se dévoile soi-même.
Les monstres, ben justement, en voilà là, avec Jean-Louis Trudel, la traductrice et les monstres. Je ne sais pas s'il y a des traductrices dans la salle, mais parfois elles sont accompagnées de monstres. Pourquoi sont-ils restés ? Le satellite visible par le hublot de l'astronef ne daigna pas répondre à la question du capitaine, mais une voix s'éleva derrière lui. On se le demande. Diego Reyes se retourna pour saluer l'arrivée de son second. « Tu l'ignores aussi, Léo. Pourtant, ce n'est pas ton premier voyage. Ce n'est que ma quatrième visite, capitaine. » Léo, qui se surcasse, ne s'excusa pas pour son interruption. Dans un astronef en chute libre, les déplacements de tout un chacun s'effectuent sans produire d'autre bruit qu'un frisli d'air froissé tant que la personne vogue sur son air. Une longue carrière spatiale avait habitué Kistukas à calculer ses trajectoires pour ne pas se frotter par mégarde aux parois des coursives. Que se passe-t-il ? Rien. Les Moes s'en tiennent à leur routine. Depuis le temps, ils devraient savoir que nous ne tenterons rien. Pour sauver nos semblables ? Diego toisa son second. L'homme était un peu plus petit que lui. Ses cheveux blonds remontaient en un chignon orné d'une médaille militaire. Cette utilisation de l'effigie impériale ne figurait sûrement pas dans la liste des usages approuvés par le protocole de la spatiale. Vétéran ou non, Kirtuskas en avait l'âge et Diego pesait chacune de ses paroles. « Précisément, rétorqua-t-il, c'est ma première fois et je tiens à ce qu'il y en ait une seconde. » Kirtuskas haussa les épaules. « Vous avez raison d'être prudent, capitaine. On ne peut pas deviner ce qu'un poulpe va se faire comme idée. Votre prédécesseur disait que chez les poulpes, le tentacule droit ne sait jamais ce que le tentacule gauche pense. Sommes-nous si sûrs du siège de leur intelligence ? Il me semblait que... C'est une image, capitaine. N'empêche que si les tenants de l'hypothèse d'un réseau neuronal distribué ont raison, leur cerveau est partout. Toutes les tentacules pensent. Les poulpes réfléchiraient même avec leur estomac ou leurs organes génitaux. En quoi ? Il ne serait pas si différent de plusieurs humains de ma connaissance. L'astronef Moe nous colle toujours au cul, comme s'il avait des ventouses. Très drôle. Si je naviguais dans les 200 mondes, je dirais ma façon de penser à son capitaine, mais votre prédécesseur me servait régulièrement cette mise en garde. Quand nous arrivions dans les parages, rappelez-vous que nous pénétrons en territoire conquis. Ça calme. Je connais le refrain. Ce que je ne comprends pas, c'est que nos hôtes aient été conquis, justement, mais qu'ils ne vident pas les lieux. Serac est un monde unique en son genre, leur projet aussi. Soit ils espèrent encore compléter la transformation de Serac, soit ils craignent de se retrouver sans le sou une fois rapatriés. Ils ont sûrement encore de la famille ou des amis dans les 200 mondes. La colonisation remonte à moins de 50 ans. Je n'essaie plus de comprendre, capitaine. Et il n'y a jamais eu le moindre incident ? Jamais. Je ne veux pas commencer. Tant mieux, il n'y a pas de héros à bord. Ma sœur a été créée par ces créatures. Bon, voilà, c'est posé là aussi. Une scène d'exposition, un vaisseau spatial, un vaisseau extraterrestre derrière. Ils approchent d'un monde colonisé. On a compris que les humains sont restés sur ce monde conquis par les extraterrestres, qui a visiblement des accords, une sorte de bizarre modus vivendi. On va le découvrir après. Et puis, entre le capitaine et son second, bah, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même rapport aux extraterrestres et la même histoire, puisqu'il y en a un qui a perdu sa sœur dans la guerre qui a été livré entre humains et extraterrestres. Voilà, on a tout dit, on a tout posé. Bien sûr, on va avoir de plus en plus de surprises au fur et à mesure dans ce récit extrêmement bien troussé, extrêmement retors, comme beaucoup des textes de science-fiction brillants de notre ami Jean-Louis Trudel. Qu'est-ce qui vous a poussé, c'est pas la première fois bien sûr, à choisir en guise de monstre, peut-être, des extraterrestres. On verra d'ailleurs si ce sont les extraterrestres les monstres, mais ça, seule votre lecture vous le dira.
En fait, c'est un texte qui fait partie de mon histoire du futur et effectivement, un intérêt pour moi de cette histoire du futur, ça a été les différents contacts entre des humains et des créatures extraterrestres. Il y en a dans cette histoire du futur qui sont relativement humanoïdes. Je me suis amusé quand j'étais beaucoup plus jeune à essayer de repenser le petit homme vert et il y a donc ce qu'on appelle des glogues dans cet univers qui sont des petits hommes verts bipèdes mais qui ont des clapets respiratoires des deux côtés du cou, qui ont une société assez différente, qui font carburer beaucoup aux odeurs. Et bon, ça, la liste de différences est en fait relativement longue. Les mots de cette nouvelle sont, disons, relativement les plus étrangers que je me suis amusé à créer. Ils apparaissent, par exemple, dans certains de mes romans pour jeunes. Ils sont originaires de l'atmosphère d'une planète jovienne. On les appelle aussi des méthanoboliseurs, donc leur métabolisme donne un rôle au méthane. Et ils sont effectivement, comme le souligne l'introduction, des poulpes, mais qui vivent à une atmosphère à peu près 10 fois supérieure à la nôtre. Donc, en fin de compte, on ne les verra pas. On ne les verra que, là il me vient une citation anglaise, « Through a glass darkly ». Et donc, on les verra qu'à travers essentiellement une vitre et peut-être bien sombrement. J'ai assisté hier à la table ronde sur les minorités dans les littératures de l'imaginaire qui m'a beaucoup parlé pour diverses raisons. Justement, je suis, comme le soulignait Stéphanie, franco-ontarien, donc je ne suis pas québécois. Et ce qui donne un certain niveau de complexité à mes rapports avec la différence, disons, et les héritages du passé. Puisqu'un franco-ontarien, c'est par définition un francophone qui vit dans une province, Ontario, qui est très majoritairement anglophone, non pas, du moins comme langue, disons, véhiculaire de communication, de socialisation. Quelque chose comme 95% de la population ne parle pas français, disons, à la maison, et même quelque chose comme 98%. Donc, c'est être une très petite minorité. Mais dans un Canada qui comprend le Québec, qui pèse à peu près 22 à 23% de la population et autant de francophones. Des francophones qui sont en fait des descendants de Français conquis par les Anglais. Alors, il y a déjà des choses qui peuvent se dessiner par rapport à ce qu'on trouvera dans cette nouvelle. C'est en partie inconscient chez moi, je pense. Je suis à la fois conscient de ce que je fais, mais inconscient peut-être des constructions précises que je donne. Et c'est certain que les ambiguïtés reflètent les ambiguïtés qui m'habitent en ce sujet. Parce que je suis aussi le descendant d'Autochtones du Canada. Et bon, là aussi, il y a une histoire qui, au Canada, n'est pas exactement une histoire de conquête militaire, mais il y a eu des rébellions écrasées par la force au Canada. Donc tout cela figure un peu dans cette nouvelle. C'est une nouvelle qui parle sur les différences.
Différences aussi quand on est confronté, pour votre personnage, à une douleur, un handicap, un problème, quel qu'il soit. Est-ce que ça change le regard de vos personnages, en tout cas dans vos récits, Hélène Narbet?
Oui, bien sûr, je dirais que ça... Oui, voilà. Alors, ça change le regard, des personnages. Dans le récit, oui, je dirais. Surtout, j'espère que ça changera, ça pourra peut-être changer le regard, ouvrir le regard de la personne qui reçoit les personnages, on va dire. Voilà, parce que c'est vrai que... Bon, la différence, après, c'est vrai que dans le handicap, dans la différence, j'ai envie de dire, de tout temps, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la mythologie, le handicap, et notamment dans tout ce qui est la boiterie, quand même, a aussi une symbolique importante qu'on retrouve. Voilà, c'est chargé aussi, je dirais, au niveau légendaire, au niveau des superstitions, c'est quand même très chargé. Bon, le boiteux ou l'infirme est supposé apporter le malheur. Le diable est vu comme est souvent décrit comme boiteux. La boiterie, généralement, que ce soit au Moyen-Âge ou même avant, quand on est affublé de boiterie, généralement, c'est qu'on a rencontré soit le divin, soit le malin. C'est la rencontre de l'un ou l'autre. Jacob, après avoir rencontré Dieu, devient boiteux. C'est après avoir rencontré Dieu, après l'avoir éprouvé dans sa chair, qu'il devient boiteux de la hanche. Bon, Héphaïstos est boiteux, bien sûr, il est sous terre, il a le secret, il détient le secret, les mystères du feu. Souvent, hein, les forgerons dans la mythologie sont boiteux, ou ceux qui, en tout cas, entretiennent un rapport avec le feu sont boiteux, tiré manchot. Bon, il y a quand même quelque chose de puisque tu as eu accès, on va dire, à une certaine connaissance, en contrepartie, tu seras frappé du handicap. Il y a quand même une certaine notion du prix à payer, on va dire, du prix à payer pour avoir un accès à un art ou à une connaissance ou à une rencontre avec l'au-delà, avec le divin. Forcément, du coup, les personnages, les personnages dont je parle dans l'anthologie, qui sont affectés, on va dire, d'une différence là, du handicap, généralement, bah, oui, ont un autre regard, ont une autre vision, voient autre chose, l'autre monde peut-être. Bon, ce qui est vrai pour les boiteux est vrai d'ailleurs aussi pour les borgnes ou alors les sourds. En perdant un œil, on devient clairvoyant. Au niveau au niveau de l'audition, on peut devenir clairaudient, si on peut dire, après avoir éprouvé, on va dire, le handicap. Tout ça fait que généralement, les personnes infirmes sont justement peuvent être un pont justement donc entre les mondes et la vision qu'ils ont du monde après l'épreuve est différente et ils entrent je dirais presque à la fois dans une nouvelle identité et un nouveau cycle aussi hein, souvent voilà.
Anselme Hochkorn, votre personnage se situe dans une sorte de Moyen-Âge de fantaisie, d'une fantaisie médiévale on va dire. Pourquoi ce petit jeu? Ça, c'est la partie humoristique entre la sœur grognonne et la sœur sourire, la sœur niaiseuse et la sœur hostile. Enfin, c'est un petit jeu de personnages. Ça vous permet de donner un peu de vivacité au récit?
Je me suis posé beaucoup de questions, en fait, sur l'obtention du prix Imaginal l'année passée. Je m'étais dit, bah voilà, j'ai un prix, donc je voulais quand même, du coup, me dire, mince, il faut que je fasse pas mentir le jury, il faut également qu'au niveau des lecteurs, j'offre les ouvrages de plus en plus travaillés. Et comme j'ai papillonné dans différents genres, un peu de fantastique, un peu de science-fiction, un peu de policier, parfois avec bonheur, avec malheur, ça m'a quand même appris une chose, bah c'est de demander finalement qu'est-ce qui fait un bon récit. Alors, je ne vais pas vous donner une recette miracle, pas la peine de prendre des notes, mais quand même, je me suis dit, à un moment, on écrit quelque chose, il y a beaucoup d'ingrédients, c'est compliqué de faire une bonne histoire, parce qu'on marie tellement de choses qu'on peut vite se faire happer par un détail et perdre de vue en fait l'essentiel. Et ces temps-ci, peut-être que je changerai d'avis plus tard, je me dis qu'on ne perd jamais son temps à soigner ses personnages. C'est très important. L'identification se fait au travers d'eux. Après tout, on sait que l'intrigue est là pour les mettre en scène, leur donner un peu un prétexte à avoir des répliques percutantes. Le background, le fantastique, le merveilleux, pour moi, est souvent là sous forme de symbole, mais après, chacun sa vision des choses. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre vraiment deux personnages à l'opposé l'un de l'autre. Alors le jeu, je pense que dès le début, on le perçoit quand même assez vite. On a donc ces deux nonnes qui récupèrent une petite orpheline qui sont en fait pour la sauver. Et l'une en fait, sœur sourire, s'évertue à sauver l'âme. Et l'autre, sœur ventrue, la bonne vivante, qui aime ripailler, festoyer, etc., bien sûr, s'inquiète plus du fait que la petite demoiselle n'ait rien avalé depuis des lustres. Alors c'est quand même temps de lui concocter un petit quelque chose qui lui tienne bien au corps. Et voici que nos deux nonnes donc partent sur les sentiers pour sauver cette demoiselle corps et âme.
Est-ce qu'on va pouvoir sauver la machine différente, Jean-Laurent Del Socorro? En tout cas, on va regarder peut-être au début. Vous en pensez? On peut peut-être lire un petit extrait. Je suis né de ces amours trop rares entre la science et la poésie. Lord Byron, mon grand-père, imaginait-il une descendance telle que moi quand il s'adonnait à son jeu littéraire sur le lac Léman avec Marie Shelley? Cette dernière aurait-elle conçu son Frankenstein différemment si elle avait connu mon histoire avant d'écrire la sienne? Son monstre aurait alors été de métal et non de chair pour mieux me ressembler. Un moulin de 12 colonnes, de 4 mètres de haut, composé de 120 roues chacune, une machine analytique ou ANA pour vous servir. Je me souviens de tout, même de mon premier instant. Je m'éveille dans un hangar de la campagne londonienne sans que mon père ne s'en rende compte. Charles Babbage est trop absorbé à vérifier les réglages et les constantes de ma mise en service pour s'apercevoir que ce n'est pas une simple machine qu'il vient de donner la vie. Je suis aveugle mais bien présente à cerner ce monde dont je perçois d'abord le bruit de mes propres rouages, puis soudain une voix. Charles ? Ada Lovelace, ma mère. Charles ! Un mouvement, mon père se retourne vers elle. Qu'y a-t-il, Ada ? J'ai une sensation étrange. Vous inquiétez pour rien, ma chère. Notre nouvelle machine à différence fonctionne à merveille. Charles m'a conçu. Mais c'est Ada qui a accouché de mon esprit codé de 0 et de 1. Je vous assure qu'il se passe quelque chose, Charles. Un bruissement, la robe de ma mère glisse sur le sol nu du hangar, la ninotype reliée à moi par un câble, tel un cordon ombilical, se met en marche. Ma chère, que faites-vous? Un test. Le bruit feutré de la carte perforée qui glisse en moi. Ma mère me parle. Une des matrices de plomb de la linotype quitte son magasin pour imprimer la réponse à la question qu'Anna vient de me poser. Quelles sont les 35 premières décimales de pi? 3, 141, 592, 653, 589, 793, 238, 400. Mon père jubile. Ça marche, nous avons réussi. Ada oublie son inquiétude. Je ne le vois pas, bien entendu, mais Charles se retient au dernier instant de poser sa main sur l'épaule de ma mère. Il n'ose pas. Même ici, sans personne pour le voir, le poids d'une société dont je ne connais pas encore l'existence le retient. Le monde n'est pas encore prêt à accepter certaines différences. Je veux leur faire comprendre que je suis toujours là, qu'ils ne doivent pas m'ignorer. Je réactive la linotype. Les caractères de plomb se remettent à marteler la feuille. Mes parents sursautent. Ada, est-ce vous qui... Non, à faux contact sans doute. Elle ne termine pas sa phrase. Le silence est tel que je crois un instant qu'ils ont disparu de la salle. Ils lisent la question que je viens à mon tour de leur poser. Premier mot d'un enfant qui a grandi trop vite. Qui suis-je ? Pauvre petite machine. Alors, Jean-Laurent Del Socorro, vous nous faites éprouver la solitude de la machine à différence ?
Oui, on se retrouve avec une personnalité, une intelligence artificielle qui apparaît. Et j'ai voulu, à travers une personnalité qui arrive brutalement, d'un coup, au contact d'une société, qui est la société fin 19e, et bien avec toute la naïveté d'une enfant, mais avec les mots déjà conscients et sophistiqués, qu'elle pose toutes les questions sur elle, sur ce qui l'entoure, sur sa mère. Et ça aussi, c'est une façon et un peu un prétexte pour voir effectivement que, notamment, sa mère, entre guillemets, Ada Lovelace, on va se rendre compte, d'accord, elle a l'origine du premier code, mais en tant que femme, c'est très compliqué comme place. La machine analytique, Anna va se rendre compte effectivement que voilà, la place des femmes est très difficile. Dans la société, il y a différentes vitesses. Elle va se rendre compte qu'elle-même, en tant que machine, elle n'a aucune place, aucune légitimité. Elle va se rendre compte que, à leur façon, elles sont toutes les deux, mère et fille, exclues en fait de cette société qui n'est pas prête à les recevoir. Et ça va permettre aussi d'aborder, à travers cette naïveté, plein de questions, parce qu'elle va entendre parler de Dieu, elle va interroger, savoir ce qui est Dieu. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas les gens et surtout les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Voilà. Donc c'est quelque chose d'un peu. C'est un récit un peu amer quand même. Oui.
Jean-Luc Trudel, vous, vos personnages, ils sont naïfs, ils sont mal informés. Quelle est un petit peu leur situation dans l'histoire que vous nous racontez?
Je pense qu'ils sont sous pression. Et effectivement, quelque part, j'ai peut-être voulu m'éloigner un peu de ces histoires qu'on voit peut-être un peu trop souvent en science-fiction ou ailleurs, où un conflit relativement simple peut être gagné, une guerre, une bataille, une quête, et on ne se pose pas toujours la question de qu'est-ce qui se passe après. Et ici, il y a des personnages, ici on est après. On est après la guerre, on est après une défaite pour certains. C'est une histoire qui pose un peu la question de comment est-ce qu'on compose, comment est-ce qu'on se débrouille, justement, en son âme et conscience, parfois, lorsqu'il y a plusieurs impératifs. Celui de la survie, celui de l'honneur, celui de peut-être effectivement l'affection, celui de quelles sont les dettes que l'on ressent, dont on veut peut-être se décharger ou transférer à d'autres. Ça, je parle un peu peut-être par ellipse, mais c'est une nouvelle qui articule certaines de ces choses, mais aussi laisse justement beaucoup de choses un peu dans l'ombre parce qu'on se rend compte que différentes personnes ont réagi de différentes façons. Et on finit peut-être par comprendre qu'elles ont fait des choix sous pression. Et certains de ces choix sont peut-être mauvais, mais peut-être qu'ils n'avaient pas le choix en fin de compte.
Hélène Larbette, votre personnage, à quoi lui il est confronté? Aux créatures, ou est-ce que c'est votre personnage qui quelque part est considéré comme une créature par d'autres?
Je pense effectivement qu'il y a les deux. Ce personnage, en étant frappé d'infirmité, en effet, en entrant, en franchissant du coup, je dirais, la porte qui sépare les mondes, est confronté effectivement à des créatures qui surgissent, on va dire effectivement comme le borgne, ce dont je parlais tout à l'heure, le borgne devient clairvoyant, quelque part, l'infirmité lui permet à ce personnage lui aussi une certaine clairvoyance, il peut donc voir effectivement les créatures qui sont de l'autre côté, mais lui-même effectivement devient une créature, il est créature, effectivement, il est donc, c'est un personnage qui est infirme, et je dirais qu'il rentre dans la catégorie des 3B, c'est-à-dire borgne, boiteux, bossu, comme, voilà, là, on sait que généralement le B, comme Barbe Bleue, généralement le B, c'est une bonne lettre pour les créatures, et donc, il rentre dans cette catégorie-là, il devient, oui, monstrueux, dans un certain sens, vu que voilà, la différence physique, l'infirmité, voilà, une créature parmi d'autres, finalement, et avec l'idée aussi que, bon, ça c'est une tradition qu'on retrouve dans beaucoup de contes, hein, et on retrouve ça aussi dans le conte de Thomas le Rimeur, par exemple, qui est...
Alan Kushner, c'est ça, hein, voilà, le roman d'Alan Kushner. Voilà.
Et donc, qui est à la base un conte d'Écosse, un conte écossais, donc de Thomas le Rimeur, qui, après avoir franchi l'autre monde, après être passé dans cet autre monde, il en revient avec des dons. Donc lui, il a le don de clairvoyance, en effet. Et il sait, à partir du moment où il revient dans le monde des hommes, il sait que cette frontière, il la refranchira à la fin. Parce que quelque part, devenu créature lui-même, il les rejoindra. Ces créatures, ces fées qui l'ont accueilli, il repartira dans le monde des fées. Et là, il y a un petit peu de cette idée, là aussi, qu'à partir du moment où on a mis un pied dans l'autre monde, quelque part, on est toujours dans un entre-deux mondes. Le monde des vivants n'est plus tout à fait, ou le monde des humains n'est plus tout à fait, le monde. Voilà, c'est plus tout à fait le monde du personnage. L'autre monde n'est pas vraiment non plus son monde. Il ne vit pas dans l'autre monde. Il est juste un pont, un passage, un entre-deux, un trait d'union, un passeur peut-être. Mais exact, c'est tout à fait ça, une créature parmi d'autres.
Les fées, Hélène Larbet, comment on s'intéresse aux fées comme personnages de fiction et comment on les traite surtout ? Parce qu'il y a deux images des fées, en fait. Alors, il y a les bonnes fées quand même, il y a celles qui vous apportent des dons. Alors, bah, piège un peu des fois, il faut se méfier avec les fées. Mais la fée négative, ce n'est pas toujours le cas non plus. Et là, est-ce que ces fées qui sont un peu dans l'ambiguïté, qu'est-ce qui vous attirait, la façon de les présenter justement dans l'ambiguïté, ou de les présenter comme négatives ou positives, ne pas faire de choix, de laisser le lecteur lui-même se faire son opinion?
Tout à fait. C'est vrai que c'est assez personnel, mais je pense et je partage cette vision, je dirais, avec Pierre Dubois, qui est que c'est du crépuscule que naît la féerie, donc c'est dans un entre-deux, que les fées sont entre les deux, en effet. Les fées ne sont pas soit entièrement mauvaises, soit entièrement, soit entièrement bonnes. Je pense que c'est en plus beaucoup plus complexe que ça. Je pense que la notion de bien et de mal est différente chez les fées. ce n'est pas du tout la même chose, et c'est autre chose. Et là, on est dans ces créatures qui viennent d'un autre monde, avec donc des codes qui sont autres, et ces fées sont là, elles existent avec leur propre, je dirais, leur propre échelle de valeur, qui n'est pas, là encore une fois, qui est différente de celle des humains. Et effectivement, on ne sait pas si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises. Elles sont là telles qu'elles sont. effectivement. Donc, je dirais peut-être avec des codes différents, sans masque, peut-être en vérité. C'est pour ça que je pense que les fées, il y a beaucoup de vérité dans la fée. Du coup, effectivement, on peut être tenté à penser que voilà, qu'elles peuvent être soit tantôt bonnes, soit tantôt mauvaises, mais je pense qu'en fait, elles sont juste vraies. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse chez la fée. C'est ce qui m'intéresse dans ce personnage-là, qui est ambigu, qui du coup n'est jamais simple et toujours complexe. Et qui, pour le coup, à mon avis, peut traverser toutes les époques, tous les supports aussi, et tous les genres, sans jamais être anachronique. Et c'est parce que la fée a cette modernité-là, elle avait déjà cette modernité, je dirais, au Moyen-Âge, qu'elle peut être transportée, à mon avis, dans tous les récits, qu'elle a si bien vécu et qu'elle continue si bien à vivre.
On arrive bientôt à la fin de notre café littéraire, c'est toujours trop court, on aurait plein de choses à se dire, mais j'espère qu'on a commencé à vous donner envie. Il vaudrait mieux d'ailleurs que vous ne perdiez pas trop de temps, parce que j'ai vu nos libraires, les ventes sont en train de s'envoler. On a commandé comme à peu près comme d'habitude et on aurait sans doute dû commander beaucoup plus. Peut-être parce que Créature s'appelait, peut-être parce que Mnemos, l'éditeur, nous a fait une magnifique couverture à rabat pour vraiment donner un bel écrin à cette illustration de John O. Et puis, nos auteurs, vraiment, nous ont fait des très chouettes textes, très différents, parfois surprenants. J'ai eu beaucoup de plaisir à les lire et à les corriger très peu. Et c'est des auteurs de grand talent avec qui c'est un bonheur de travailler. Alors, en un mot, parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes, tous les quatre. En un mot, pourquoi Créature, c'est un thème qui vous a plu, Jean-Laurent Del Socorro, puisque vous avez accepté d'écrire une nouvelle. D'accord, vous étiez obligé parce que vous êtes de coup de cœur.
J'ai accepté parce que c'était un challenge. La première chose à laquelle on pense quand on pense Créature, on pense monstre. Et j'ai dit non, je vais pas faire un monstre. Et tout de suite. Ça devient plus difficile. Alors j'ai vraiment pris comme un challenge parce que c'est pas là où je serais allé et j'ai cherché à me compliquer un petit peu pour me sortir de mes facilités.
Bon, coup de cœur, c'est normal que j'ai placé le texte en tête, mais c'est aussi parce que évidemment il rendait un hommage à Frankenstein, donc ça tombait extrêmement bien. Et puis quand même, c'était un bon texte, donc c'était pas difficile de le mettre en tête. J'aurais pu en mettre d'autres, mais en tout cas celui-là ne déshonore pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'anthologie. Et pour ça, on en remercie Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Louis Trudel, vous êtes donc un invité du Canada, invité francophone. Vous êtes une des grandes signatures de la science-fiction pour la jeunesse et pour adultes. On peut trouver un certain nombre de vos romans chez À Lire. Un petit guide aussi de ceux qui s'y intéressent, je le signale, de la science-fiction au Québec, que je recommande. Et puis évidemment, un livre qu'il a écrit en commun avec son ami Ménard, qui est Suprématie, qu'on trouve aux éditions Bragelonne. J'ai dit un petit peu pour que vous découvriez cette science-fiction québécoise, mais la même question, hein, même punition. Créature, pourquoi ça vous a parlé ?
En fait, bon, ça me parle sans doute parce que c'est quand même un des grands thèmes de la science-fiction et je suis effectivement un auteur de science-fiction. Il y a quelque part, il y a quand même l'instinct démiurgique ou plutôt l'impulsion démiurgique qui est à la fois technicisé, désenchanté dans la science-fiction parce que ce que Dieu pouvait faire dans la légende, dans la religion, la science-fiction l'attribue à justement des savants comme Frankenstein et ça en fait effectivement quelque chose, un thème très vieux dans la science-fiction. Cela dit, quand j'ai reçu l'invitation, très très agréable invitation à recevoir de Stéphanie, je me suis plutôt retourné vers mon stock de nouvelles en travail, inachevées ou à réécrire. Parce que bon, j'ai signé il y a 140 nouvelles à peu près au fil des ans et ce rythme de production ne s'explique que parce qu'en fait, je travaille presque toujours sur 3 ou 4 nouvelles. Il y en a peut-être une dizaine ou des dizaines qui sont parfois des idées en ébauche ou parfois beaucoup plus que des ébauches. Et en fait, j'ai soumis à Stéphanie une nouvelle où c'était plutôt une approche de fantasy avec une créature venue de la mer. mais pas d'un lagon noir. Et cette nouvelle de la traductrice chez les monstres, qui était une nouvelle de science-fiction. Et c'est en fait Stéphanie qui a préféré la nouvelle de science-fiction, ce dont je suis très content.
Hélène Larbet, sommes toutes des créatures.
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous sommes tous et toutes des créatures, et surtout à la rencontre d'autres créatures. Et je, dans mon texte, et c'est aussi ce que je pense, voilà, quelque chose qui m'est assez cher, je pense que, voilà, que le thème de la rencontre et de créatures à la rencontre d'autres créatures et de ce qui se passe à ce moment-là, et à la fois peut être effectivement angoissant, mais très heureux à partir du moment où on l'accepte.
Anselme Schorn, le dernier mot sur les créatures. Ne croyez pas évidemment ce qu'il a essayé de vous raconter. Hein. C'est évidemment une nouvelle abominable. Mais voilà, il y a des créatures, vous les découvrirez. En quoi le thème des créatures, ça vous parle, à part pour nous horrifier, nous faire peur, tout en prenant un air angélique qui ne trompera personne ici?
Ma réputation est faite, je retire l'auréole, je suis grillé. Merci Stéphanie. C'était un accouchement dans la souffrance. J'ai écrit 3 fois la nouvelle parce que j'étais pas satisfait au départ. Et après, donc, je suis vraiment revenu au code du genre. Donc, par contre, je suis reparti sur le monstre. J'ai pris la première intuition et par contre, je l'ai caressé à rebrousse-poil, ce qui se prêtait assez bien à l'exercice. Et donc, puisque monstre, monstrare, c'est le regard, c'est montrer, et ben en fait, le protagoniste qui pour moi est principal est aveugle. En plus, j'ai un rapport à la cécité pour des raisons personnelles qui m'est très très chère. Et donc, je voulais vraiment que ce jeu de regard disparaisse. Et puisque le regard disparaît, le monstre disparaît aussi.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots qu'on va bientôt se quitter. J'ai eu le bonheur et le plaisir de réaliser et de coordonner cette anthologie créature. Et finalement, une directrice artistique, c'est sans doute la première des monstres dans un festival d'imaginaire. Alors, bonheur et continuation à ce festival. Et puis à vous, l'occasion d'aller très vite signer les derniers exemplaires. Je pense que dimanche matin, on sera en rupture de stock de créatures et découvrir les autres livres de nos auteurs. Merci à eux. Vive les créatures !